Dimanche dernier, nous avons reçu un invité, Ron Bishop, et nous avons eu une petite rencontre entre hommes. Et le thème était être mentor ou apprenti. Et donc ce matin, merci Tatiana, nous allons aborder l'éducation de nos enfants selon la Bible. Il ne s'agit pas d'un traité de sociétal sur les méthodes d'éducation. Je ne vais pas vous parler de Françoise Dolto ni autres. On va parler de la Bible. Que dit la Bible sur l'éducation de nos enfants? Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence dans nos cœurs, merci pour ton appel, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu accomplis. Merci pour les délivrances, les restaurations. Merci pour ta présence simplement. Merci pour qui tu es. Je te remets ce moment, je te remets les cœurs, je te remets les esprits. Merci de nous toucher, de faire en sorte que nous intégrions et que nous appréhendions pleinement ta parole, ta pensée et ta volonté pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous propose d'aborder quatre points essentiels. D'abord, la définition de l'éducation. Éducation ou enseignement, ce n'est pas la même chose. Ensuite, à travers la Bible, je vais prendre deux ou trois exemples, si on a le temps, pour montrer l'importance de l'éducation de nos enfants, bien sûr. On va aussi préciser l'héritage à transmettre. Et enfin, on va aborder la relation des parents entre eux, dans le cadre de l'éducation des enfants. Alors, éducation ou enseignement? Point d'interrogation. L'enseignement, c'est une pratique, c'est la pratique mise en œuvre par un enseignant pour transmettre à un élève ou à un étudiant des compétences. C'est la définition du dictionnaire. Les compétences, c'est le savoir, c'est-à-dire les connaissances, le savoir-faire, les pratiques, et le savoir-être, le comportement relationnel. Donc l'enseignement, c'est la transmission de ses compétences à un élève. Enseigner, c'est donc transmettre à la génération future cet ensemble de valeurs considérées comme faisant partie d'une culture commune. Mais l'enseignement ne doit pas être confondu avec l'éducation. On verra pourquoi, mais je pense qu'on devrait rebaptiser l'éducation nationale en enseignement national, parce que l'éducation a un autre niveau, un autre grain d'enseignement et comporte autre chose. L'éducation, c'est faire se développer une personne. Et donc, de façon plus générale, l'éducation correspond à la formation globale d'une personne d'un niveau physique, d'un niveau social, d'un niveau moral, mais aussi d'un niveau religieux. Quand on éduque quelqu'un, on fait croître, on fait grandir, on développe, on accompagne le développement global de quelqu'un. L'enseignement fait partie, il contribue à la formation, à ce développement, mais il n'est qu'une composante de l'éducation. L'éducation ne se limite pas à la simple instruction, donc à la transmission du fameux savoir qu'on a abordé tout à l'heure, des fameuses compétences savoir, savoir-faire et savoir-être. L'éducation vise à assurer à chaque individu le développement de toutes ses capacités personnelles, capacités physiques, capacités intellectuelles, capacités morales, capacités techniques. Donc c'est beaucoup plus global, beaucoup plus général que le simple enseignement. Et il est souvent facile de confondre enseignement et éducation. Enseigner, c'est donc éduquer, en partie, Mais éduquer n'est pas simplement enseigner. Et il est du devoir des parents d'éduquer leurs enfants et des enseignants d'instruire les enfants, pas l'inverse. Et nous devons arriver dans l'Église à cette même conclusion. On verra tout à l'heure pourquoi. Là, nous parlons de l'enfant. L'enfant, qu'est-ce que c'est que l'enfant ? L'enfant, c'est un don de Dieu. Dans le psaume 113, il est écrit « Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. » Au psaume 127, la parole nous dit « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et dans le Proverbe, on peut en trouver plein comme ça, hein, de versets sur le don de Dieu pour les enfants, mais j'ai particulièrement apprécié ces trois-là. Le troisième est le suivant, Proverbe 17. « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards, et les pères sont la gloire de leurs enfants. » Il y a une citation assez qui correspond parfaitement au thème de la prédication ce matin. Je vais vous citer Mère Teresa, vous connaissez tous Mère Teresa, qui a dit ceci, très belle phrase, « L'enfant est le plus beau don que Dieu puisse faire à la famille. Il a besoin de son père, aussi bien que de sa mère, parce que l'un et l'autre manifestent l'amour de Dieu d'une façon spéciale. » Mère Teresa. La Genèse nous montre que Dieu veut que l'homme et la femme soient féconds, qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre. Ça, on le voit dans la Genèse. Cela signifie que la venue d'un enfant au monde fait partie intégrante de l'objet de Dieu, du projet de Dieu, depuis le commencement. Les enfants sont bien une bénédiction de Dieu. Et quelque chose d'important aussi qu'il faut noter, c'est qu'en donnant aux hommes le pouvoir de se multiplier, Dieu nous accorde la grâce extraordinaire de mettre au monde des êtres qui sont des images de Dieu. Nous mettons au monde des images de Dieu. Et Dieu nous a donné une mission. La mission de l'humanité, donc, c'est de remplir la terre et de la soumettre. Cette œuvre, elle ne peut pas être accomplie par des enfants. L'enfant est donc appelé à grandir pour que le dessein de Dieu se réalise. Je vous rappelle le verset 52 de Luc, chapitre 2, qui parle de Jésus, enfant, et qui dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Nous devons permettre à nos enfants de croître en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'enfant doit croître et se développer dans tout ce qu'il est. On l'a vu tout à l'heure, physiquement, spirituellement, socialement, etc. Deuxième chose que nous devons toujours, nous, parents, tontons, tata, tati, frères et sœurs en Christ, retenir, c'est que l'enfant et lui aussi le prochain que nous devons aimer comme nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même. L'enfant est le prochain que nous devons aimer comme nous-mêmes. Et l'enfant a d'autant plus besoin d'amour qu'il est plus vulnérable. Il a besoin de notre amour. Nous devons, et c'est un devoir, pleinement nous engager en sa faveur pour qu'il puisse grandir et vivre le dessein que Dieu a prévu pour lui. Ça, c'est notre responsabilité. Parents, tontons, tata, frères et sœurs en Christ. Ça va ? Abordons l'importance de l'éducation. Je vais prendre trois exemples. Oui, on aura le temps. On va se remettre dans un contexte historique. On va se promener un peu dans l'Ancien Testament et on va aller à l'époque des juges, la période des juges. Cette période est succinctement résumée dans Actes. On va faire un petit aller-retour. Je vais vous lire Actes 13 à partir du chapitre du verset 16 jusqu'au verset 23. Paul se leva et ayant fait un signe de la main, il dit. Donc, Paul raconte quelque chose. Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit pendant 40 ans dans le désert, et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges, je parle de cette période, jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu le leur donna pendant 40 ans. Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc nous sommes à la période des juges. Il n'y a pas encore de roi à Israël. Et je voudrais juste remettre le contexte. Le dernier verset, la dernière phrase du livre des juges est la suivante. Donc c'est juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça veut tout dire. Qui connaît Ophni et Phinéas? Ah, il y en a. Ah, très bien. Ophni et Phinéas sont les fils du sacrificateur Élie. Ah oui. Alors attention, je ne parle pas du prophète Élie, avec un E. Je parle du sacrificateur Élie, sans E. E-L-I. À ne pas confondre. Élie est un personnage du livre des juges et du premier livre de Samuel. C'est l'un des derniers juges d'Israël, c'est-à-dire c'est un chef guerrier au sens biblique, et il a exercé avant l'institution donc, de la monarchie israélite. Il a été juge en Israël pendant plus de 40 ans. Et il porte aussi le titre de grand prêtre d'Israël. Donc c'était le personnage le plus élevé à l'époque en Israël. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 2, au verset 12. Et nous allons voir ce que la parole nous dit à propos des fils d'Élie. Ophni et Phinéas. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. C'est clair. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant la main une fourchette à trois dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qu'il te plaira. » Le serviteur répondait, « Non. » Tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Et ensuite, à partir du verset 22, il est écrit « Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends que de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Ce passage est assez révélateur quand on le dissèque. D'abord, on a vu qu'Élie était responsable en Israël, et pourtant, il n'a pas réussi à enseigner correctement à ses propres enfants. La parole nous dit qu'ils ne connaissaient point l'Éternel. Ils sont les fils du grand prêtre d'Israël, mais ils ne connaissent point l'Éternel. On peut se poser la question sur la volonté, sur la bonne volonté d'Élie dans l'enseignement de ses fils. Manifestement, ces deux garçons n'ont pas reçu la moindre éducation ni le moindre enseignement de leur père, qui pourtant est sacrificateur et grand prêtre d'Israël. Pourtant, le cœur d'Élie semble être tourné vers la vertu et le service. Service, pas vice. Et ces deux fils, eux, sont menés par le vice et la cupidité. On peut se demander alors qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Élie a gâté ses enfants? Il manque de fermeté envers ses deux fils, on le voit. C'est pas bien. Ce qu'on me raconte, c'est pas bien. Non, il faut pas faire ce que vous faites. Et manifestement, il les aime plus que Dieu. Et il se rend même complice de leurs actes. Dans le verset 29, Dieu dit dans le verset 29 de 1 Samuel 2, Dieu dit à Élie, « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où viens-tu ? Pardon. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» C'est Dieu qui parle à Élie. « Afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. » On voit là un père qui a été un peu débordé par l'amour pour ses enfants, qui ne les a pas éduqués et qui même est tombé dans la permissivité la plus totale. On voit ce que ça peut donner. Parallèlement à ça, toujours dans la maison d'Élie, tout au long de cette période, il y a un témoin, il y a un apprenti qui assiste à tout cela. Cet enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Cet enfant s'appelle Samuel. Et il faisait le service devant l'Éternel, et il était au service de l'Éternel devant Élie. Il s'agit bien de Samuel, le futur prophète Samuel, le grand prophète Samuel, parce qu'Élie était le mentor de Samuel. On peut se poser la question, Élie, mentor de Samuel, ça produit le grand prophète Samuel, le plus grand prophète d'Israël, le plus réputé. Et Élie, père de Hophni et Phinéas, c'est la catastrophe. On va continuer la chaîne. Donc on a Élie, ses deux fils, Samuel. Et Samuel, à son tour, a deux fils. Joël et Abija. Vous avez entendu parler de Joël et Abija? Oui. La question ne s'adresse pas à toi, Marc. Le grand prophète Samuel, c'est était le prophète. C'est le top du top des prophètes en Israël. Son histoire nous est racontée dans le premier et le deuxième livre de Samuel. Samuel, c'est lui qui désignera les deux premiers rois d'Israël. C'est pas n'importe qui. Il est considéré comme le dernier juge d'Israël. Et surtout, il est considéré comme le premier des prophètes prophétisant en terre d'Israël. C'est lui le premier qui a prophétisé de la part de l'Éternel au peuple en terre d'Israël. Enfant, Samuel est consacré au Seigneur par sa mère Anne, qui le reçoit comme un cadeau de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, un don de Dieu, alors qu'elle était stérile. Elle l'emmène vivre chez le grand prêtre Élie, alors qu'il est enfant. Avec son mentor, Samuel devient qui il est, et il est appelé à jouer un rôle exceptionnel pendant une période de crise et de transition pour le peuple d'Israël. Et pourtant, dans 1 Samuel, au chapitre 8, verset 1, lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger, comme il y en a dans toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Je résume la suite de l'histoire. Samuel désigne alors à contre-cœur le premier roi des Hébreux, Saül, que Dieu lui a montré. Et pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi Samuel était-il aussi réticent à nommer un roi à la place des juges? Est-ce que c'est parce que c'était contraire à la volonté de l'Éternel? Ou est-ce que c'est parce que ses fils, du coup, qui étaient juges, allaient perdre leur fonction? Je pense que le déplaisir de Samuel vient du fait qu'il avait nommé ses fils, déjà pourquoi ses fils, juges d'Israël, et que leurs mauvaises actions ont déclenché le souhait du peuple d'avoir un nouveau système d'administration. Ils voulaient avoir un roi, parce que les deux fils de Samuel étaient très mauvais. L'arrivée d'un roi supprime la fonction de juge qu'occupent ses fils. On le voit, les enfants de Samuel étaient aussi mauvais que les enfants d'Élie. Samuel n'a pas été éduqué par ses parents, mais par Élie. Anne ayant donné son fils à Élie pour qu'il devienne serviteur de l'Éternel. Samuel a grandi dans un environnement particulier que nous avons évoqué tout à l'heure. Il y avait une différence d'âge entre les fils d'Élie et le petit Samuel. Et je pense qu'il devait être admiratif et impressionné par ses deux grands frères qui devaient être des garçons assez dissipés, à mon avis. Les enfants d'Élie ont corrompu la vision de l'éducation de Samuel. Et Samuel a reproduit avec ses propres fils ce qu'il a vu Élie faire avec les siens. On voit encore que nous sommes réellement influencés par qui nous fréquentons. Ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Et si les enfants de Samuel n'ont pas reçu une meilleure éducation, donc c'est sûrement parce que Samuel a été témoin de cette mauvaise éducation qu'Eli a accordée à ses propres enfants. Si nous ne sommes pas en mesure de déverser la bonne éducation dans le cœur de nos enfants, cela peut être très dommageable. La mère du roi Akasia, l'éduquait d'une mauvaise manière. Et même Moïse a reçu l'éducation, il a été instruit dans les voies des princes d'Égypte. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que les 30 ans dans le désert n'ont pas été nécessaires justement pour se débarrasser de cet enseignement qui ne donnait pas gloire à Dieu? Et nous devons impérativement prendre conscience de l'importance de l'éducation pour nos enfants. Je vais rapidement prendre le troisième exemple. Qui connaît le premier prophète de l'humanité? Marc. Le premier prophète, c'est Abel. Je vais vous parler de Caïn et Abel, les fils d'Adam et Ève. On connaît tous l'histoire de Caïn et d'Abel, qu'on peut lire dans le quatrième chapitre de la Genèse. Cette histoire a véritablement fasciné, je crois, toutes les générations. Je vais juste, pour qu'on se remette dans le contexte, je vais lire Genèse, chapitre 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, l'Éternel. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et au chapitre 4, donc de Genèse, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole, j'aime bien les tournures bibliques, adressa la parole à son frère. En gros, ils se sont fightés. Hein, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Adressa la parole. On voit dans cet épisode, on voit qu'il s'agit de l'opposition entre l'homme spirituel Abel et l'homme matériel Caïn. Et cette opposition explique notamment la préférence divine pour l'offrande d'Abel par sa qualité de prophète. Il est le premier prophète de l'humanité. Ça, on peut le voir dans Luc, chapitre 11, verset 49, où il est écrit « C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » afin qu'il soit demandé compte à cette génération, du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Abel est bien le premier prophète de l'humanité. Si Dieu agrée l'offrande faite par Abel, c'est que celui-ci a donné les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Et il ne l'a pas fait par hasard. Il l'a fait parce qu'il se conformait aux pratiques rituelles qu'il a certainement reçues de son papa et de sa maman, Adam et Ève. Et on peut penser que si lui l'a reçu, son frère aîné aussi l'a reçu. Mais Caïn, lui, se contente simplement d'apporter les fruits du sol et il est peu soucieux de plaire à Dieu. La foi d'Abel est le résultat de l'éducation de ses parents. La foi d'Abel est le résultat de l'éducation de ses parents. Et dans Hébreux, au chapitre 11, verset 4, il est écrit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » La foi d'Abel est le résultat de l'éducation de ses parents. Très souvent, ça m'est arrivé, j'essaie d'imaginer l'état d'esprit et le traumatisme qu'Adam et Ève ont dû connaître après la chute. La veille, ils se promènent dans les jardins, ils discutent avec Dieu, tout va bien. Et le lendemain, ils se retrouvent sur une terre aride, ils ont faim, ils ont soif, ils ont froid, ils doivent cultiver, ils ont honte. Et je me dis, ça a dû être un traumatisme énorme. Et je suis convaincu qu'ils ont transmis à leurs enfants, donc Caïn et Abel, certaines choses, expliquant pourquoi ils sont dans cet état et pourquoi ils sont aussi désespérés. Je pense qu'ils ont dû être désespérés. Et quand je vois à la maison, je suppose que tous les enfants font pareil, hein, les pourquoi de ma fille Eva, il faut aller te coucher, pourquoi ? Parce qu'il est l'heure de se coucher, pourquoi ? Parce que tu vas à l'école demain, pourquoi ? Sans fin, j'imagine les pourquoi de Caïn, d'Abel avec leurs parents. Il fait froid, il faut manger, pourquoi on a faim ? Pourquoi on a soif ? Pourquoi tu es triste, maman ? Pourquoi tu es triste, papa ? Je suis convaincu qu'Adam et Ève ont tenté de transmettre à leurs enfants un héritage spirituel. Cet héritage était la conséquence de leur nouvelle relation avec Dieu. D'autant plus que Dieu semble être resté en contact direct avec cette famille. En préparant ce message, je me suis rendu compte que Caïn, de lui-même, au bout de quelque temps, Caïn fait lui-même une offrande à l'Éternel. C'est qu'il a entendu parler de l'Éternel et qu'il sait qu'il faut faire des offrandes. Donc il a reçu un enseignement. Ce qui m'a aussi étonné quand j'ai relu le passage, c'est que l'Éternel parle à Caïn et que Caïn lui répond. Donc il y avait toujours une relation plus fusionnelle, comme dans le jardin d'Éden, mais il y avait une relation quand même. Et pourquoi Caïn a-t-il moins bien reçu l'enseignement que son frère Abel ? A-t-il été moins instruit ? Ou a-t-il été différemment instruit ? A-t-on porté plus d'attention sur le dernier petit ? Comme c'est souvent le cas ? Tout ça, ce sont des questions que je partage avec vous. Je ne vous cache pas que je n'ai pas les réponses. Mais voilà, on est dans un troisième cas où une transmission n'a pas été complète. Une transmission a été partielle. Dans les deux premiers, les deux enfants sont aussi mauvais l'un que l'autre. Et dans ce troisième exemple, il y en a un sur deux qui est passé à côté de l'héritage. Et je voudrais aborder le chapitre de l'héritage à transmettre. Lors de la dernière rencontre des hommes, on a eu une excellente conclusion de Michael qui nous a résumé l'importance de l'héritage pour nous, l'héritage à transmettre, et particulièrement pour nous les chrétiens. Nous devons transmettre quelque chose de particulier à la génération suivante. Et en préparant ce message et en consultant un couple serviteur de Dieu ayant 7 enfants, dont un fils pasteur, 5 filles, vous voyez de qui je parle ? Voilà. Il y a 2 éléments essentiels de l'héritage que nous devons transmettre à nos enfants. Le premier, c'est la crainte de Dieu. Et le deuxième, c'est l'obéissance. Proverbe 1:7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Pourquoi craindre Dieu alors qu'il n'est qu'amour ? On ne craint pas l'amour. La crainte de Dieu est une chose indispensable pour ceux qui veulent être des disciples de Christ. Pourtant, cette expression ne cesse pas d'être choquante. La terreur opposée à l'amour de Dieu, ou alors mal comprise. On a souvent une interprétation d'un Dieu père fouettard. Mais la crainte de Dieu signifie l'attachement fervent à Dieu, l'honneur permanent rendu à Dieu, le respect total porté à Dieu, la révérence absolue envers Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Et lorsqu'on connaît la nature de la relation que Dieu veut avec nous, ses enfants, on l'a chanté tout à l'heure, il n'est pas difficile de bien comprendre et de bien déduire le sens du mot crainte dans ce contexte. Mais pour connaître, pour appréhender cette connaissance de la relation de Dieu, il faut qu'elle soit transmise. Il faut qu'elle soit transmise aux enfants, initialement, et par qui doit-elle être transmise ? Par les parents. Les enfants doivent recevoir normalement tout ce que des parents chrétiens peuvent leur donner de la part du Seigneur. Ça, c'est notre devoir de parents. Les parents donnent l'amour, l'affection, ils pourvoient aux besoins matériels, aux besoins éducatifs, mais aussi aux besoins d'enseignement de la parole du Seigneur. Et ça, messieurs, je suis désolé, mais ça, c'est le rôle du père en particulier. Éphésiens 6 stipule, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Selon la Bible, je vous rappelle qu'on est dans le cadre de la Bible, c'est le rôle du père d'alimenter sa famille. Il alimente non seulement sur le plan financier, le plan matériel, mais il alimente aussi par la distribution régulière de la parole de Dieu. Le père doit comprendre que les enfants, pour grandir dans le Seigneur, ont besoin de connaître la parole de Dieu. Ils ont besoin de cette parole arrosée de la prière commune du mari et de la femme. Et c'est le père le responsable de cette démarche. Le père doit instruire, enseigner, corriger tout au long de la journée, mais à des moments particuliers, il doit aussi donner un enseignement biblique régulier à ses enfants. Et il est essentiel que les parents chrétiens, et notamment les pères chrétiens, ne démissionnent pas au profit de l'école du dimanche. L'école du dimanche ne doit pas être le lieu d'enseignement biblique de nos enfants. L'école du dimanche est un complément. C'est quelque chose qui est apporté en plus. Mais la base de l'enseignement biblique de nos enfants, c'est la maison, c'est la famille, c'est le père. Si les parents ne donnent pas l'éducation biblique à leurs enfants dans leur famille, les enfants auront l'impression qu'il s'agit de quelque chose de secondaire. Et quand ils iront à l'école du dimanche, ils n'auront pas l'impression que c'est important. Puisqu'à la maison, on n'en parle pas. C'est pas important. Le père est le pasteur de sa famille et il est le responsable. Et c'est à lui qu'incombe ce devoir de pasteur, de chef de foyer, de distribuer, d'alimenter sa famille en parole de Dieu. Et c'est que comme ça qu'on pourra transmettre la crainte de Dieu. Le deuxième point, c'est l'obéissance. Vaste débat. Dans 1 Samuel 15, il est écrit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Dans Romains 5, au chapitre 19, Paul nous dit « Car c'est par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Il est donc capital de savoir que nos enfants doivent être entraînés dès le plus jeune âge à l'obéissance. C'est la responsabilité des parents de faire appliquer la parole de Dieu qui dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » L'entraînement à l'obéissance des enfants commence dès les premiers mois de la vie et au maximum dans les 3 premières années. On sait en effet que chez le jeune enfant, les réflexes d'apprentissage de base sont extrêmement importants à cette période. Et cet apprentissage de l'obéissance passe bien sûr par l'apprentissage de la punition et de la correction. Dans Proverbe 13, il est écrit « Qui aime son fils se hâte de le châtier. » Se hâte de le châtier. Par amour. Paul nous rappelle que nous devons élever nos enfants en les corrigeant, selon le Seigneur. Évidemment, le dosage de la correction doit se faire avec la sagesse du Seigneur. Et il est important de comprendre que l'enfant a besoin d'être éduqué dès le début de sa vie et qu'il sent qu'il y a des barrières à ne pas franchir. L'enfant doit sentir qu'il y a une discipline et que cette discipline est là pour l'aider à grandir. L'éducation des enfants à l'obéissance doit porter particulièrement sur 2 points capitaux essentiels. Nous ne devons jamais tolérer dans nos familles, de la part de nos enfants, le mensonge et la rébellion. Comme le mensonge et la rébellion se manifestent très tôt dans la nature humaine, la correction devra porter essentiellement sur ces 2 points-là, mensonge et rébellion. Chaque fois qu'on se rend compte qu'il y a rébellion ou mensonge, il faut corriger sans laisser passer une seule fois. Comme dit Marc, avec amour et douceur. C'est là tout le challenge. Et nous avons vraiment besoin de la sagesse de Dieu pour savoir quel type de correction il faut appliquer, car c'est très souvent différent d'un cas à l'autre, d'un enfant à l'autre. Évidemment, si on ne tolère pas le mensonge et la rébellion dans nos foyers, ça veut dire qu'au niveau des parents, on ne le pratique pas non plus. On a un devoir d'exemplarité auprès de nos enfants. Ils nous observent. Et là, je vais aborder la partie de la relation des parents. On se rend compte que l'éducation de nos enfants selon la parole de Dieu est un sujet complexe, difficile, profond, et que pour chacun d'entre nous, c'est un challenge immense. Mais si on analyse notre propre relation avec Dieu le Père, on peut très souvent comprendre la relation des enfants avec nous. Très souvent, je me reconnais dans mes filles, à travers ma relation avec Dieu. C'est ahurissant. Et concernant nous, les parents chrétiens, l'éducation des enfants est un sujet qui doit toujours être replacé dans le cadre de l'entente spirituelle du couple. Un couple qui n'est pas uni spirituellement ne peut pas correctement éduquer ses enfants. D'autant plus qu'ils ont un très bon discernement, les enfants, et qu'ils peuvent remarquer la moindre défaillance, la moindre faille dans notre entente spirituelle et surtout s'y engouffrer pour en profiter. Les parents doivent donc veiller avant tout à établir entre eux un lien spirituel profond dans l'esprit. Et ce lien consiste à être en accord sur l'éducation, les moyens d'éducation, les moyens de correction et sur la discipline notamment. Il faut en parler entre parents, il faut prier ensemble et ensuite appliquer, afin que l'enfant ne soit pas placé dans une situation où l'un des parents n'est pas d'accord avec l'autre sur ce qui est décidé. Et ça, c'est vraiment capital. Et cet accord dans le couple est totalement dépendant de la prière commune des parents. Des parents qui ne prient pas ensemble risquent d'être incapables d'élever leurs enfants selon la Bible. Nous, parents, nous devons prendre le temps de prier ensemble pour notre couple, notre foyer, pour nos enfants. Je vous rappelle que nous avons un groupe de mamans qui s'appelle Mère en prière, qui prie tous les samedis matins pour les enfants, les mamans et les papas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Quand est-ce qu'on s'y met? C'est bien beau, hein, mais nous sommes les pasteurs, hein, de nos foyers. Et je vais conclure en résumant ce qu'on a vu. On a vu qu'enseigner, c'est un peu éduquer, mais éduquer, ce n'est pas simplement enseigner. Vous vous souvenez? On a vu qu'il est du devoir des parents d'éduquer leurs enfants et de l'enseignant de les instruire. Donc, nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. Nous avons vu que l'enfant est le plus beau don que Dieu puisse faire à la famille. Nous avons vu que nous devons impérativement prendre conscience de l'importance de l'éducation pour nos enfants. Souvenons-nous des trois exemples bibliques. Nous avons vu que l'héritage essentiel à transmettre à nos enfants, c'est la crainte de Dieu et l'obéissance. Et enfin, nous venons de voir que nous, parents, nous devons prendre le temps de prier ensemble pour nos familles. Et pour conclure, je voudrais juste vous donner quelques versets qui sont dans la Bible. Il y en a énormément, mais bon, j'en ai fait un petit tri. Sur ce que Dieu attend de nous, parents, quand nous éduquons nos enfants. Il faut veiller très tôt à l'éducation de l'enfant. Proverbe 22:6, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Les parents doivent être des exemples permanents, on l'a vu, en parole et en acte. Deutéronome 6, verset 6, qui dit, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire tout le temps. Dieu attend que les pères soient patients. Colossiens 3, verset 21. Père, n'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils se découragent. Les mamans, elles doivent ouvrir la bouche avec sagesse et avoir des instructions aimables sur la langue. Proverbe 31:26. Dieu attend que la discipline soit une expression de l'amour parental. Proverbe 13:24. Qui épargne le bâton n'aime pas son fils, mais qui l'aime se hâte de le châtier. Corriger les enfants avec amour et fermeté les aide à apprendre. Proverbe 29:15. Les punitions et les réprimandes donnent la sagesse. Un enfant livré à lui-même fait la honte de sa mère. La discipline a pour objet d'aider l'enfant à mûrir, pas à l'exaspérer. On l'a vu, Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et enfin, les enfants, on l'a vu aussi, Éphésiens 6, verset 1. « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Je vous remercie. Je vais prier. Merci Père. Merci pour ta parole qui nous guide, qui est un flambeau dans nos vies, Merci Seigneur, parce que tu nous accordes de procréer des images de Dieu. Tu nous accordes la joie d'avoir des enfants, Seigneur. Et merci pour cette immense responsabilité que tu nous donnes, Seigneur. Merci de nous convaincre de l'importance de l'éducation de nos enfants, ainsi que ceux de nos frères et sœurs. Merci de nous permettre, Seigneur, de pleinement transmettre l'héritage de ta crainte et de l'obéissance à nos enfants, Seigneur. Et merci pour chaque couple, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs à tendre à nous, à en réunir, afin de prier ensemble, les uns pour les autres, et pour nos familles, nos couples et nos enfants. Merci, Seigneur. Merci pour la transformation, le renouvellement de nos vies.